Bonjour. Je commencerai mon intervention avec un bref regard sur les 9 nouveaux musées d'art créés aux États-Unis depuis l'an 2000. Ensuite, je présenterai 7 exemples de rénovation et d'extension parmi les plus intéressants de cette période, et 2 extensions en cours de construction. Ces exemples s'étendent à travers les États-Unis et correspondent donc à des contextes et des publics différents. Il faut se rappeler aussi les importantes différences entre le système des institutions culturelles aux États-Unis et en Europe, et les conséquences de ces différences. Dans la plupart des pays européens, l'architecte est choisi par un jury de professionnels que vous voyez là à gauche sur l'écran. C'est un jury pour une concurrence. Tandis qu'aux États-Unis, ce sont quelques membres du conseil d'administration, pour la plupart sans expertise architecturale, qui prennent la décision. Et à droite, vous voyez un de ces nombreux conseils. Alors qu'en Europe, les gouvernements ont la responsabilité de financer la construction et le fonctionnement de ces institutions, aux États-Unis, les conseils d'administration doivent trouver les fonds nécessaires. Deux musées d'art ont marqué la fin du XXe siècle. Le Solomon Guggenheim à Bilbao, que vous voyez à gauche, certes pas aux États-Unis, mais l'œuvre d'un architecte américain, Frank Gehry, et le John Paul Getty Museum à Los Angeles par Richard Meyer. Au moment de leur achèvement, le style sculptural de Bilbao et le style moderne rectiligne du Getty ont mis au premier plan dans leur opposition les discussions qui continuent de nos jours sur la meilleure façon d'exposer les œuvres d'art. Sur un fond neutre, ou sur un fond dont l'artiste tient compte dans son œuvre. Bien que les galeries du Getty de l'architecte d'intérieur Thierry Despont soient loin d'être neutres, un artiste moderne, comme Ellsworth Kelly, préfère le premier. Une artiste qui opère hors de son atelier, comme Jenny Holzer, le second. Le style architectural des musées qui ont suivi a fluctué entre les deux extrêmes avant de partir en spirale dans une stratosphère d'invention. Le style déconstructiviste du Denver Art Museum par le studio Daniel Libeskind se conforme au langage de Gehry. La structure en acier est gainée de panneaux de titane. Les murs et plafonds intérieurs sont inclinés afin d'introduire la diversité. Bien que cette architecture ait suscité quelques critiques négatives, elle intègre plusieurs genres d'art contemporain, notamment des installations comme celui-ci par Gabriel Dor. Et elle englobe l'aile excentrique dessiné par Gioponti en 1971. Le Centre d'art contemporain Lois et Richard Rosenthal à Cincinnati, Ohio, par Zaha Hadid, se situe dans la même veine. Les blocs horizontaux de verre, béton et aluminium noir sont empilés en portes en faux sur les côtés. Des rampes sillonnent l'intérieur et les espaces hétérogènes des galeries sont dessinés pour interagir avec des installations spécifiques au lieu, telles que celui-ci de Dohosu, des spectacles et des expositions temporaires. Un nouveau musée à San Francisco et un autre à Boston combinent une architecture rectiligne avec des configurations et une structure inhabituelle. Le De Young à San Francisco, par Herzog et de Meuron, a un plan composé de trois bandes parallèles conçues comme les doigts d'une main. Cette disposition crée une expérience spatiale inattendue. Servant les beaux-arts et les arts décoratifs américains précédant le XXe siècle, des galeries de proportions et hauteurs de plafond différentes, avec des murs en couleurs variées, parterres en eucalyptus et lucarne, créaient des intérieurs plutôt domestiques, comme vous voyez en haut. Pour rendre hommage à une collection d'art distinguée de la Nouvelle-Guinée, un grand espace dont les murs sont en marqueterie d'eucalyptus est scandé par des vitrines autonomes du plancher au plafond. L'Institute of Contemporary Art à Boston est l'œuvre de Diller, Scofidio et Renfrew. Les piétons y accèdent depuis le port, tandis que les voitures arrivent de l'autre côté. Une tribune en bois s'étend depuis une promenade qui longe le bord de l'eau et suit une grande courbe qui monte à travers le battement pour ensuite revenir émerger au-dessus de la tribune. Des galeries en porte-en-faux au troisième étage offrent des vues magnifiques sur le port. L'architecture sur le port. Ah oui, vous voyez deux images ici. L'architecture de deux autres musées se rapproche du modernisme classique. Le Glass Museum à Toledo, Ohio, par les architectes japonais de Sana, est un exemple de l'architecture minimaliste qui caractérise la démarche de praticiens contemporains comme Thomas Pfeiffer, un Américain, et Yoshio Taniguchi, un Japonais. La boîte en verre, avec un mur partiellement courbe, est portée par de délicates colonnes en acier. La plupart des intérieurs sont délimités par des murs en verre incurvés. Ce bâtiment transparent, seulement 4 mètres de haut, avec un généreux sous-sol pour les systèmes mécaniques, est un parfait réceptacle pour son contenu des objets transparents appartenant à une vaste collection de verres historiques. Pour le nouveau Whitney Museum of American Art à New York, de même que pour plusieurs de ses projets en cours, Renzo Piano a retrouvé le vocabulaire industriel du Centre Pompidou à Paris et les liens de ce dernier avec la ville. Les formes fragmentées du Whitney sont revêtues de panneaux verticaux en acier. Ces formes abandonnent les clichés modernes trop souvent en vigueur. Les liens du Whitney avec son site dans le quartier de la Boucherie se font au moyen de terrasses, d'escaliers extérieurs, de baies tout hauteur et verrières. Un noyau en béton préfabriqué contient les réseaux et la circulation verticale. Cet escalier, que vous voyez à gauche, ne semble guère adapté aux vastes halles d'entrée et aux amples galeries. Chaque étage est consacré à un espace continu pour l'exposition des œuvres, facile à diviser par des cimaises mobiles et jouissant d'une abondante lumière du jour. Depuis leur première réalisation, The Institute of Contemporary Art à Boston, Diller, Scofidio et Renfrew ont, entre autres projets, rénové le Lincoln Center, for the Performing Arts, travaillait à l'extension du MoMA et à un grand programme multiculturel qui fait partie de l'énorme opération résidentielle et commerciale des Hudson Yards, tous trois à New York. Leur musée Broad, dans le centre de Los Angeles, échappe à mes catégories stylistiques initiales. C'est une boîte déformée avec un œil en forme de bulle, que vous voyez ici, qui rappelle les fenêtres du Whitney de Marcel Breuer. Le Broad fait partie des nombreux musées privés apparus dans les dernières décennies, tant en Europe qu'aux États-Unis. Entre autres, la Pulitzer Foundation à Saint-Louis, le Nasher Sculpture Center à Dallas et la Rubel Family Collection à Miami. Le bâtiment est recouvert de béton précontraint, perforé par des trous angulaires. Il s'ouvre à l'extérieur grâce à une entrée inclinée. Cette matière sera de moins longue durée que les panneaux armés de fibres de verre proposés à l'origine. La visite du musée commence par une sorte de grotte, d'où un long escalier mécanique accède au deuxième étage où se trouve la galerie unique, inondée par la lumière du nord tombant du toit. Les visiteurs descendent un escalier pour retourner au niveau du sol, donnant un aperçu des réserves. Ce que je n'ai pas dit de ces musées, tous construits au XXIe siècle et quelques-uns il y a 2 ans seulement, et qui sont déjà démodés. De même que les bibliothèques ne sont plus orientées autour des livres, et la bibliothèque à Seattle est un bon exemple, les musées d'art ne sont plus orientés principalement autour de l'art. Ainsi, 40% du nouveau Switch House de la Tate Modern à Londres sont consacrés aux espaces pour activités sociales et culturelles. Avec 34 500 m², la nouvelle tour tordue, habillée de briques perforées, a 10 000 m² de plus que le Boiler House initial. Tous deux sont dus à Herzog & de Meuron. Moins de 8 000 m² du Switch House sont des galeries, utilisées surtout pour les performances. Les 5 étages du haut sont consacrés aux activités sociales, à la pédagogie et aux restaurants. Ils sont couronnés par une plateforme avec murs en verre. Les rénovations et extensions réalisées dans la même période visait à donner plus d'espace au café, aux lieux de rencontre et au théâtre. Le potentiel qu'ont ces attractions de générer des revenus ne doit pas être négligé, compte tenu de la dilation de ces équipements dans les musées américains et en Grande-Bretagne. Souvent, les formes de ces bâtiments ne correspondent à aucune catégorie établie. Plusieurs sont dessinés par des architectes dont j'ai déjà parlé, un même groupe restreint d'architectes est très demandé par les conseils d'administration et direction de musées à travers le monde. Comme dans le cas de San Francisco, l'architecture de beaucoup de ces agences s'éloigne des langages sculpturaux et rectilignes de Bilbao, Guggenheim et du Getty. Plusieurs ont des revêtements presque textiles, tandis que les intérieurs restent plutôt conventionnels. Ils profitent tous de plus de lumière du jour et offrent davantage de vues vers l'extérieur que les musées antérieurs. La plupart sont plus sensibles à la préservation de l'environnement, typiquement en réduisant ou en éliminant même la consommation de l'énergie. Pour la rénovation de 2 house museums, tous deux à Manhattan, le Neue Gallery, que vous voyez à gauche, par Annabelle Seldorf, et le Morgan Library and Museum par Renzo Piano Building Workshop, démontrent deux attitudes différentes envers l'extension. L'une a accentué les qualités de l'original, l'autre a diminué, voire éliminé ces qualités. Ce qui distingue la rénovation de la Neue Galerie est la préservation de détails et du caractère de l'hôtel particulier construit en 1914 par Carrère et Hastings. Seldorf a installé tous les équipements nécessaires à un musée, grand ascenseur, climatisation, éclairage, son et sécurité, tout en conservant l'atmosphère d'une résidence privée. Le résultat est un cadre qui complète les beaux-arts et arts décoratifs modernes allemands et autrichiens exposés. À la Morgan Library, cette atmosphère résidentielle a en revanche été complètement perdue lorsque Piano a remplacé l'entrée intime de l'annexe de Benjamin Wister Morris, que vous voyez en haut, par une piazza en bas de 15 mètres de haut en verre et acier. Pour accroître l'importance d'une entrée donnant sur Madison Avenue, l'expérience de la maison initiale a été sacrifiée et le hall d'entrée de la Morgan Library est devenu semblable à ceux de nombreux autres musées, tous hostiles à l'art, entre autres l'aile est de la National Gallery à Washington, D.C. et la pyramide du Louvre, tous deux de IMP. En outre, au lieu de simplifier la circulation, le nouveau atrium qui remplace un atrium que vous voyez à droite, ajouté en 1991 par Wurzsanger & Mills, n'indique pas comment atteindre les galeries depuis un espace qui est dominé par les tables et les chaises du café. Il faut cependant féliciter Piano d'avoir trouvé une solution brillante pour créer un nouvel espace dans un quartier dense. Piano a creusé 18 mètres sous terre pour trouver les réserves et un auditorium de 280 places. Il a ajouté une tour de 4 étages, rénové des galeries avec une sensibilité délicate et il a aussi créer une nouvelle salle de lecture éclairée zénithalement. En contraste, les expansions du MoMA à New York et du Clark à Williamstown, Massachusetts, s'ajustent aux bâtiments existants. Jusqu'à un certain point, le minimalisme japonais caractérise les deux projets, bien que finalement ce minimalisme ne soit pas si minime. Le conseil d'administration du MoMA fut conquis par la promesse de Yoshio Taniguchi de faire disparaître l'architecture et par les détails exquis de son œuvre au Japon. Mais le comité de sélection a complètement négligé le fait qu'à New York, la qualité de fabrication et les règles des syndicats rendent ce niveau de finition inaccessible. Le hall d'entrée entre la 53e et la 54e rue Ouest est un tunnel bruyant et peu attirant. L'atrium évoquant un immeuble de bureau avec ses 33 mètres de hauteur fonctionne comme une boîte à son qui transmet son brouhaha dans les galeries voisines. Plus problématiquement encore, la distribution des galeries autour de ce patio privilège la circulation, voire contrôle de foule, plutôt que la concentration sur la contemplation de l'art. Une partie de la sensibilité de l'architecte a survécu, telle que les planchers très minces, les murs rideaux de grande portée et la restauration du jardin. Mais le propos global est un échec. En fait, aujourd'hui, à peine une douzaine d'années après cette extension, qui a coûté presque 1 milliard de dollars, pour l'architecture et l'augmentation du fonds de dotation, le MoMA a lancé une fois de plus, dans un exemple dramatique, à mon avis, d'excès, une extension qui coûtera cette fois 400 millions de dollars, plus 45 millions de dollars de rénovation. Le musée a acquis The American Folk Art Museum par Williams et Zinn, élégant et très reconnu, pour relier le bâtiment actuel du MoMA et les galeries qui sont en construction dans la tour de Jean Nouvel à l'ouest du MoMA. Puis le conseil d'administration a décidé de détruire ce musée âgé de moins de 15 ans. Dans le vide laissé par cette démolition, Diller, Scofidio et Renfro construisent 4 500 mètres carrés de galeries. Ils regarderont aussi les problèmes de l'extension de Taniguchi. Le Sterling and Francine Clark Institute à Williamstown, Massachusetts, est connu pour sa collection d'impressionnistes français et de peintures américaines du 19e siècle. C'est un des rares musées du niveau mondial situé dans la nature plutôt qu'en ville. Il est donc compréhensible que le conseil d'administration, conduit de 1994 à 2015 par l'énergique Michael Conforti, ait cherché pour l'extension un architecte à la capacité reconnue pour travailler avec la nature. Alors, vous voyez sur ce plan les différents pavillons dont je vais parler. Ici, c'est le Stonehill, et ici, le nouveau Clark, et ici, c'est le bâtiment d'origine qui date des années 1950. Pour ce campus de presque 57 hectares, Tadeo Ando fut choisi en 2001 et travaillé avec Gensler, New York, pour dessiner le Lund Center à Stonehill. Un établissement de conservation avec 280 mètres carrés de galeries pour exposer l'art moderne et contemporain. Et moins d'un kilomètre et demi au sud, le Clark Center. Celui-ci est relié par un long couloir vitré sur un côté au bâtiment néoclassique originel du musée, dessiné par Daniel Perry en 1955, et au Manton Research Center, extension brutaliste de Pietro Belluschi de ce premier bâtiment, construit et ouvert en 1973. Le Stonehill Pavilion s'intègre effectivement d'une façon harmonieuse au tremble et au bouleau qui se trouve derrière ce bâtiment. Une plateforme en plein air s'étend depuis la façade nord et donne l'impression de toucher le bord de la forêt. Une large terrasse en plein air avec un café donne vue au sud sur les collines du Vermont. Le Clark Center, situé en grande partie à l'étage inférieur, ajoute 1000 mètres carrés de galeries, un café, une boutique de souvenirs, une salle pédagogique et des espaces polyvalents. Ici, Ando, collaborant avec les architectes paysagers Reed Hildebrand, a de nouveau coordonné habilement l'œuvre de l'homme et celle de la nature. La nouvelle entrée ouvre à l'est sur une terrasse donnant vue sur 3 étangs et en terrasse. Et les collines scéniques des environs. Cet espace séduisant est ouvert gratuitement au public 24 heures, 7 jours par semaine. Les modifications conçues par Ando ne connaissent pas toujours le même succès. Utiles, les nouvelles galeries du Clark passent au dernier plan, derrière le patio d'entrée de 8 mètres de haut, avec des vues spectaculaires du café que vous voyez ici En bas à gauche, c'est le commencement des tables. Le tout est baigné par le soleil qui pénètre par un puits de lumière à côté du mur rideau orienté vers le sud. Encore plus discutable sont les murs en béton typiques de Ando qui souvent bloquent les vues d'une façon arbitraire. Ce procédé est particulièrement irritant à l'entrée, qui est contredite par un guide digital du campus, que vous voyez sous le canapé à gauche, qui détourne la circulation de l'axe vers une porte latérale inattendue. Cette formule se répète ailleurs avec des murs qui semblent s'étendre sans aucun sens. Un des murs extérieurs du Lund Center, apparemment sans fonction structurale, percute le son de la fenêtre panoramique de la salle de conservation. L'idée de conforter, de construire quelques-uns de ces murs dans le même granit rose que le bâtiment de Belleski, ne fait qu'accentuer la confusion visuelle. Pour le Nelson Atkins Museum of Art in Kansas City, Missouri, autre exemple de l'extension d'un musée existant, Stephen Hall a effectivement fait disparaître l'architecture, du moins de l'extérieur. Mis au défi de respecter un musée des années 1930 aimé de tous, Hall a rejeté en sous-sol les 6700 mètres carrés de l'aile bloc. Son désir de construire des espaces à la fois expressifs et fonctionnant comme white cubes est, à mon avis, très réussi. Au-dessus de chacune de la série des 5 nouvelles galeries se trouve un bloc translucide habillé de panneaux de verre sablé de 5 mètres de largeur. Cette matière translucide attire la lumière pendant la journée et la renvoie la nuit. La hauteur des plafonds varie de 8 à 10 mètres et les murs ondulants en courbe et en baldaquin afin d'accentuer la lumière du jour. Plusieurs entrées fournissent des chemins différents à travers les galeries, en contraste avec la circulation rigide de Taniguchi au MoMA et les vues contrôlées d'Ando au Clark. L'extension du Walker Center à Minneapolis par Herzog et Demeron procède d'une toute autre attitude envers le musée existant d'Edward Larrabee Barnes, qui est ici à droite. Le contraste est dramatique. L'architecture de Barnes est discrète, une tour en briques d'un moderne de bon aloi, tandis que celle de Herzog et de Meuron est un volume expressionniste revêtu de panneaux brillants d'aluminium gaufré avec des fenêtres trapézoïdales. Les deux musées sont reliés par un couloir partiellement vitré. Le premier musée est également contredit par les lustres en cristal dont la lumière est renforcée par des fanaux de théâtre en haut des murs et les lames ajourées comme une dentelle qui décore les entrées anguleuses des galeries et des fenêtres supérieures. On pourrait dire que Robert Venturi rencontre le docteur Caligari. À ce degré d'invention, les galeries elles-mêmes, le traditionnel white cube, sont contre-performantes. Ce ne sont pas en fait les galeries qui ont la priorité dans cette extension, mais plutôt le théâtre, le restaurant, le salon d'accueil et les studios d'artistes. On ne pourrait taxer l'extraordinaire nouveau théâtre de 340 places d'être contre-performant. Le revêtement de ces murs, un métal déployé noir, est traité avec le même motif de dentelle utilisé ailleurs, ici en trois dimensions. Et les balustrades ondulantes des balcons en plâtre noir rappellent un théâtre de vaudeville. Le dernier musée, au sens traditionnel, dont je parlerai, se situe dans le bâtiment de 10 étages de Snoeta, proche du premier bâtiment de Mario Botta pour le San Francisco Museum of Modern Art. Les architectes de cette extension ont été accusés de fratricide architectural, du fait qu'une partie du dessin agressivement postmoderne de Botta ait été détruite, notamment l'escalier intérieur en granit noir, mais aussi parce que la nouvelle architecture est clairement supérieure. Quelques critiques ont même suggéré qu'il eût mieux valu détruire complètement l'aile de Botta afin de libérer Snoeta de toute contrainte. L'extension blanc cassé, courbée et grenue est revêtue de panneaux ondulés en polymère armés de fibres de verre. Elle contient un théâtre polyvalent, deux restaurants et un café, ainsi que des espaces d'accueil généreux. Des galeries de taille, de forme et de lumière variées comprennent à la fois des white cubes traditionnels et des espaces spectaculaires, comme les larges couloirs longeant la façade est ou des escaliers alternes avec des grandes fenêtres offrant des vues panoramiques. À eux deux, l'ancien et le nouveau musée ont plus d'espace pour l'art moderne que n'importe quel autre musée aux États-Unis. Qu'apprenons-nous de cette analyse? Est-ce que l'Amérique a réussi à créer une architecture culturelle aussi audacieuse que celle de la France avec Pompidou, le Quai Branly et le Louvre-Lens, entre autres? Les défauts pratiques du système américain sont révélés par le fait que beaucoup des institutions culturelles construites entre 1998 et 2004 au coût cumulé de 24 milliards de dollars luttent maintenant pour survivre, malgré la fréquentation élevée des musées d'art dans le monde entier. Je n'ai malheureusement aucune solution à proposer, mais je crois avoir, comme nous dira plus tard Blandine Chavannes, un aperçu de ce que promet l'avenir. Sur la base du concept du Fun Palace de Cedric Price, Diller, Scofidio, Renfro et le Rockwell Group, spécialisés dans la conception des théâtres, construisent actuellement ce qu'ils appellent le Shed au sein de l'énorme projet des Hudson Yards à l'ouest de Manhattan. Price avait conçu une structure flexible et transformable qui a inspiré le Centre Pompidou de Piano et Rogers. Le Shed, qui coûtera 425 millions de dollars, poussera la flexibilité encore plus loin. Mais il faut noter au passage que moins de 10 ans après l'inauguration de Pompidou, la direction du musée invita Guy Olente à transformer une grande partie des galeries en cubes blancs traditionnels. Ce processus fut ensuite amplifié par Jean-François Baudin. Et vous voyez ici un exemple du Pompidou à l'ouverture et une partie des galeries dessinées par Guy Olente. Pour le shed, une enveloppe d'acier revêtue de coussins légers et translucides habille les 6 nouveaux. Cette carapace de 36 mètres de haut peut coulisser au-dessus de l'esplanade voisine de 2004 carrés, grâce à de larges roues guidées par des rails. Vous voyez à droite cette extension en train d'être utilisée. Le shed est conçu pour recevoir toutes les formes d'art imaginables. Exposition, installation, représentation, théâtre, musique classique et populaire, danse, mode, photographie, film et événements festifs. Lors de son inauguration en 1997, le Centre Pompidou a révolutionné la définition du musée d'art. Comme nous le savons, il a abandonné le musée Fortress pour démocratiser l'art en l'exposant au grand public à l'extérieur. Maintenant que l'art a explosé pour embrasser un nombre infini de formes et que les musées commencent à créer un espace public devenu de plus en plus rare dans les centres urbains, il est peut-être temps que l'architecture des musées adopte des configurations nouvelles. La rénovation actuelle du MoMA, entreprise par les mêmes architectes, Diller, Scofidio et Renfrew, avec Gensler, est basée sur ce que les conservateurs du musée décrivent comme une nouvelle attitude envers la façon de présenter les œuvres d'art. En vérité, cette attitude n'est guère nouvelle. Pour donner seulement un exemple, l'année dernière, le Metropolitan Museum a réinstallé ses galeries d'art moderne et contemporain exactement de cette façon. Et je sais qu'en France, on a utilisé cette méthode depuis des années. Les disciplines ne sont plus isolées, mais combinées. Les galeries des expositions temporaires du MoMA auront des gabarits différents et ces nouvelles galeries pourront accommoder des médias variés. Actuellement, les galeries du sixième étage, que vous voyez à droite, sont trop hautes pour beaucoup d'œuvres d'art. Entre autres changements, les espaces publics seront augmentés de 25% avec une nouvelle boutique et un bar à espresso qui viendra supplémenter un restaurant à grande échelle et un vaste café qui, comme les deux grands théâtres, existe déjà. Il reste à voir si les dirigeants du moment et leurs architectes peuvent satisfaire les 73% des Américains qui considèrent une visite au musée avant tout comme l'occasion de retrouver et d'apprécier leur famille et leurs amis. Vous voyez ici une fête au Perez Museum à Miami Beach. Tel est l'idéal aujourd'hui de la plupart des nouveaux musées aux États-Unis.